l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Tarascon-sur-Ariège, 100.2.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce Présence Midi. C'est toujours un grand plaisir de se retrouver entre 12h et 13h. Et dans au sommaire de ce magazine, nous allons découvrir une belle structure qui vient en aide aux plus démunis. Elle s'appelle Habitat et Humanisme et elle est dans le diocèse de Tarbes-Lourdes. Et c'est Benoît Guillard qui va nous faire découvrir cette belle structure. Et puis, on parlera aussi d'une très belle initiative, puisque les 3 et 4 juin dernier, c'est tenu à la maison Gascogne à Auch, le premier forum départemental de la santé et de la solidarité organisé par les Restaurants du Cœur. Deux journées qui visaient à lever les barrières de la mobilité rurale et l'accès aux soins pour les personnes précaires accueillies via des navettes gratuites et fournies par les 11 centres départementaux. Et quand même, plus de 300 personnes environ ont profité de cette belle initiative. Vous entendrez Jean-Loup Gouault, responsable départemental d'aide à la personne au Restaurant du Cœur, Nathalie Signe, patiente, et Hélène, médecin cardiologue, grâce à Pauline Cazier, notre correspondante dans le Gers. Et puis, on partira à Bagnères-de-Bigorre, puisque nous aurons Renaud de Belfond ainsi que d'autres invités pour nous parler du futur salon sur le livre pyrénéen qui aura lieu début octobre, le salon du livre pyrénéen, donc à Bagnères-de-Bigorre. Ce sera donc nos invités présents et partenaires depuis plus de 10 ans de ce beau salon, et on y sera d'ailleurs en direct le samedi matin.
Présence dans la Haute-Ariège.
Et pour l'heure, on retrouve notre...
Monsieur le visiteur de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons pour cette semaine à nouveau dans la chronique verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, je suis à Lourdes, et plus précisément, je suis donc au Centre Assomption de Lourdes, où j'ai la joie de faire la connaissance et de rencontrer Bernard Devers, qui est le fondateur, prêtre bâtisseur, dit-on, entre guillemets, de Habitat et Humanisme. Et donc, chers auditeurs, j'ai la joie de pouvoir échanger quelques mots avec lui et pouvoir vous présenter aussi ce magnifique mouvement qu'est Habitat Humaniste. Bonjour Bernard, deux mots de présentation.
Bonjour Benoît, chères auditrices et auditeurs, bonjour aussi. Présenter Habitat Humanisme, l'association elle a 40 ans. L'intuition, c'est comment loger des personnes en situation de grande fragilité en veillant à ce qu'elles ne rejoignent pas des quartiers fragiles. Au fond, on est tous frères. Cette fraternité, elle doit faire tomber les murs. Si on n'arrive pas à lézarder précisément ces murs, la fraternité, c'est un mot creux.
Alors, cher Bernard, aujourd'hui, donnez un petit peu la dimension de ce qu'est devenu Habitat Humanisme en termes de logement, en termes de logement en propriété, en termes de logement mis à disposition, en termes de famille accompagnée, simplement pour que nos auditeurs aient vraiment une vision de ce que ça représente aujourd'hui.
Alors, les chiffres parlent, mais en fait, je veux dire d'emblée, c'est pas du tout une fausse humilité, c'est en fait le constat du drame de notre société, où des milliers et des milliers de personnes sont à la recherche d'un toit. Ce qui a été fait en 40 ans, c'est aujourd'hui à date, c'est 11 000 foyers qui ont un logement. Hier, c'était parfois des personnes qui étaient même dans la rue, etc., qui se retrouvent aujourd'hui dans des logements qu'ils n'espéraient pas. Mais naturellement, par rapport en fait aux attentes, on voit que c'est dramatiquement insuffisant. Ceci étant, c'est quand même... C'est peut-être une goutte d'eau dans cet océan en fait de la misère. Mais en tout cas, cette goutte d'eau, elle a une valeur parce qu'au sens où en fait, il y a des choses possibles. Et je trouve que c'est notre démarche et au nom de notre foi et de notre espérance, nous devons être des acteurs de possibles, des acteurs de nouveaux possibles. Il s'agit de faire du neuf. Habiter à Manis, c'est aussi un pôle médico-social qui est relativement important puisque c'est en fait c'est 4000 personnes aujourd'hui confrontées au grand âge et au handicap qui ont trouvé une place au sein de cette association. C'est aussi en fait un lien avec des autistes, des enseignements de jeunes autistes, et c'est aussi un lien avec l'urgence, notamment ces femmes qui sont en fait violentées et qui se retrouvent parfois avec leurs enfants en fait dans la rue. À chaque fois, c'est en fait des situations tellement insupportables que la question qui est la nôtre et qui est aussi la vôtre si, dans cette écoute, c'est de dire mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer et faire changer ? Et la fragilité, au fond, notre société, elle en a peur du fragile, alors qu'elle est là. Elle est totalement rampante. Donc il y a un regard à avoir par rapport à cette approche du fragile. Écoutez, Benoît m'interview et je vais prendre de mémoire en fait ce mot d'un poète, de Jean-Luc Grasset. La fragilité du monde est si grande que Dieu marche pieds nus pour ne point le briser. Et lorsque je m'aperçois que Dieu est venu, et Dieu vient aussi à partir de chacun d'entre nous, voici que je m'étonne de tant de clarté après son passage. Et bien voilà, le travail que nous avons à faire, c'est précisément un peu de susciter cette clarté, de se dire, mais en fait, mais cette personne que j'ai peut-être pu juger ici et là, et voici que dans cette relation avec elle, je découvre aussi une véritable richesse. Ce monde, il nous faut tenter en fait de faire en sorte de l'évaluer à partir de l'attention portée aux fragiles. Et c'est cette attention qui finalement détermine là où nous en sommes de notre humanité.
Alors effectivement, je crois que Bernard, dans votre message très fort, très profond, autour de ce monde, la question qui se pose à chacun d'entre nous, chrétiens, citoyens, c'est véritablement comment faire pour que le logement des plus fragiles soit perçu comme une responsabilité collective. Et c'est bien là tout l'enjeu. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, Bernard, Habitat Humanisme, aujourd'hui, comment arrivez-vous à investir, à continuer à construire au fur et à mesure, quels sont vos soutiens financiers, comment vous arrivez à trouver justement la ressource pour avancer?
Alors, notre soutien, c'est tous ceux qui, en fait, se disent, à partir un peu d'économie, enfin, un peu d'argent qu'on peut avoir, mais il y a des gens qui ont très peu d'argent et qui aussi participent à notre démarche, pour dire, voilà... On ne va pas mettre cet argent dans des bas de laine, parce qu'on sait que ça n'apporte rien du tout. Hein, et qu'on voit qu'aujourd'hui, en fait, il y a cette fameuse épargne de précaution, hein, qui est absolument terrible. En fait, finalement, elle est thésaurisée et en fait, elle ne permet pas de lever, de se relever. Et donc, c'est à partir d'une foncière, pour les mots techniques, je vais tenter de vous les épargner. C'est-à-dire, en fait, finalement, c'est un peu une copropriété où les personnes disent, ben voilà, ben moi je peux mettre 1000 euros, 500 euros, moins parfois, etc. Et puis ça, cet argent-là, il est investi uniquement dans la pierre, uniquement dans la pierre. Et donc, à partir de... Ça nous a permis de construire des milliers et des milliers et des milliers de mètres carrés, en fait, depuis bien sûr 40 ans. Et ce sont ces logements qui se dessinent, qui se réalisent, et qui permettent de pouvoir accueillir ceux qui ne pensaient jamais pouvoir être logés. Et sans habitat, il n'y a pas d'humanité, bien entendu. Sans habitat, il n'y a pas de dignité possible. Et donc c'est une invitation pour chacun de se dire, mais finalement, là où je suis ou là où j'en suis, qu'est-ce que je pourrais faire pour participer finalement à cet engagement ? Et il n'y a pas de participation modeste. Il y a une participation, cet argent il est investi, hein, c'est pas un don. Hein. Donc en fait, Habitat Manis n'est pas très riche, elle n'a pas de moyens financiers qui lui sont propres. En fait, elle est portée par, on m'a dit au début, mais c'est une utopie votre histoire, c'est pas possible en fait, etc. Eh bien, c'est une utopie concrète, et cette utopie, elle se révèle en fait une grande sagesse. Et la sagesse, c'est précisément toujours un esprit de résistance, de dire qu'est-ce que je peux faire en fait pour que en fait cette société aille mieux. Comment elle peut, la fraternité, ça ne reste pas un mot, mais ça reste précisément un engagement qui conduit à construire et à se construire autrement.
Donc on va dire que c'est un peu un fonds d'épargne populaire qui nourrit les projets, tout simplement. Et que nos éditeurs qui seraient soudain appelés par votre discours pourraient effectivement abonder à ce fonds d'épargne populaire. Vous êtes sur les Hautes-Pyrénées, vous êtes sur le diocèse de Tarbes-Lourdes, cher Bernard. Pas tout à fait par hasard, parce que je crois qu'il y a un événement qui va se passer d'ici quelques heures à Tarbes.
Alors justement, à Tarbes, on a réalisé à la fois en plein centre-ville une maison intergénérationnelle et aussi une pension de famille pour des personnes qui étaient en très grande difficulté et qui trouvent à partir en fait de ce lieu un lien. Voilà. Je crois qu'il faut, sans lieu, il n'y a rien qui peut exister. Hein. Et donc, pour faire exister, il faut bâtir. Et ça, c'est bâtir, bien sûr, avec de l'argent, c'est bâtir naturellement avec tous les acteurs de l'acte de construction, mais c'est aussi bâtir parce qu'il y a des hommes et des femmes qui disent « mais moi je veux donner un peu de mon temps pour pouvoir rencontrer ». Au fond, là aussi, construire des liens. Et quand on construit des liens ainsi, en fait finalement, on n'est plus dans l'ordre du jugement, on est dans l'ordre parfois de l'étonnement, mais d'étonnement en étonnement, un jour on découvre aussi qu'il y a quelques raisons de s'émerveiller.
Alors, cher Bernard, ça va être un peu la dernière question. Hein. Nous sommes à Lourdes, où, bien évidemment, devant cette grotte de Lourdes, beaucoup de pèlerins cabossés, brisés, viennent implorer Marie. Et puis, donc, j'en profite en disant, ben voilà, un père bâtisseur comme Bernard, quel message de joie et d'espérance il peut nous donner aujourd'hui ?
Des messages de joie, c'est en fait... Ce sont ces personnes qui ont, vous savez, quand elles ont reçu les clés pour entrer dans ce logement. Ce n'est pas simplement un logement qu'elles ont trouvé. D'abord, elles ont découvert qu'en fait, on s'intéressait à elles. Que c'est un horizon qui s'ouvre. Hein. Et cette espérance, c'est que... J'aime bien ce mot de Bernanos, vous me le permettrez. L'espérance, c'est le désespoir qui est surmonté. Il nous appartient les uns et les autres, précisément, de nous élever et de faire relever, en fait, à partir de projets qui permettent à ce monde de le dire, en fait, ce monde, il est bien meilleur que nous le pensons, et en tout cas, nous allons veiller à le rendre possible. Et à ce possible, nous sommes les uns et les autres appelés.
Magnifique conclusion pour cette interview. Merci, cher Bernard, de nous avoir donné un petit peu de votre temps, et au plaisir de vous retrouver à Lourdes. Au revoir.
Présence à Cahors, 92.5.
Il y a ceux qui prendraient un avion, d'autres qui s'enfermeraient chez eux, les yeux fermés. Toi, qu'est-ce que tu ferais ? Toi, qu'est-ce que tu ferais ?
Et en a qui voudraient revoir la mer, d'autres qui voudraient encore faire l'amour. Une dernière fois, toi, tu ferais quoi? Et toi, tu ferais quoi? Si on devait mourir demain, qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins?
en a qui referaient leur passé. Certains qui voudraient boire et faire la fête jusqu'au matin, d'autres qui prieraient. D'autres qui prieraient,
ceux qui s'en fichent et se donneraient du plaisir. Et d'autres qui voudraient encore partir avant la fin. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Si on devait
voilà une question, tiens, qu'elle est bonne. Si on devait mourir demain, à l'instant, c'était Pascal Obispo et Natacha Saint-Pierre sur Présence. Je vous propose d'aller faire un petit tour vers ce beau diocèse qui est le diocèse d'Auch. Et c'est notre correspondante Pauline Cazier que nous allons retrouver.
Présence, place du Capitole, 97.9.
Les 3 et 4 juin s'est tenu à la Maison de Gascogne à Auch le premier forum départemental de la santé et de la solidarité organisé par les Restos du Cœur. Deux journées qui visaient à lever les barrières de la mobilité rurale ou de l'accès aux soins pour les personnes précaires. Accueillis via des navettes gratuites et fournies par les 11 centres départementaux, 300 personnes environ ont profité de cette initiative. Je vous propose d'écouter Jean-Loup Gouault, responsable départemental d'aide à la personne au Resto du Cœur, ainsi que Nathalie, une patiente, et enfin Hélène, médecin cardiologue. Ils sont tous au micro de Pauline Cazier.
Jean-Loup Gouault, bonjour, vous êtes responsable départemental d'aide à la personne au Resto du Cœur. Alors aujourd'hui, on se trouve à Maison de Gascogne pour le premier forum départemental de la santé et de la solidarité. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit.
Oui, et merci de votre intérêt. L'objet de cet événement, qui est une première édition, était pour nous de lever avant tout deux barrières pour les publics précaires que l'on accueille au quotidien au sein des 11 centres des Restos du Cœur du Gers, à savoir tout d'abord la problématique liée à la mobilité. Dans ce département rural, avec un coût des carburants qui a fortement augmenté ces derniers temps, la capacité de se déplacer des personnes que l'on accueille s'est drastiquement réduite. La deuxième barrière, qui tient à l'accès à une offre de soins complète, est également déjà un enjeu pour les personnes qui ne sont pas en situation de précarité dans le Gers, et alors ceux qui sont en situation de précarité extrême, comme les publics que l'on accueille, voilà, cette situation et cet accès est d'autant plus compliqué. Donc l'idée était un petit peu de lever ces barrières et de permettre aux familles que l'on appuie au quotidien de pouvoir accéder à cet événement, accéder à une consultation optique, ophtalmologique, d'avoir accès à une cardiologue également. On sait que ces deux secteurs-là sont extrêmement difficiles d'accès, qu'ils demandent plusieurs mois d'attente avant d'obtenir un rendez-vous avec un spécialiste de ce type. Et donc, au-delà de ces deux spécialités, d'autres partenaires nous ont rejoints et appuient cette initiative, comme la Ligue contre le cancer, l'Association des diabétiques Occitanie, le planning familial, le CARUD, qui prévient et accompagne les risques d'addiction de l'association Regard.
CARUD, c'est le centre d'accueil, d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogue.
Tout à fait, qui est porté par l'association Regard. La communauté 360 qui accompagne et appuie les personnes en situation de handicap ainsi que leurs aidants. Et enfin, un partenaire d'ordre un petit peu plus social qui est Parcours Confiance Microcrédit. Voilà. Donc l'intérêt était d'une part à ces gens, pour ces gens de bénéficier de rendez-vous avec ces spécialistes et éventuellement aussi de consulter le reste de nos partenaires qui dispensent message de prévention sur les différents facteurs de risque auxquels sont exposées ces populations précaires et un suivi éventuel par la suite. Voilà.
Dans l'après-midi de la deuxième journée, combien de personnes sont venues depuis hier pour consulter ?
On envisage de manière grossière entre 100 et 150 personnes par jour qui ont pu bénéficier soit de consultations auprès de nos partenaires médicaux, paramédicaux ou sociaux.
Les personnes qui sont là, je vois, vous parliez des yeux et du cœur, mais donc si on découvre des pathologies, comment les personnes après vont rentrer dans un parcours de soins si c'est compliqué ?
Alors oui, ça reste un enjeu de taille. L'intention était ici éventuellement déjà de montrer, d'identifier éventuellement certains risques et de montrer un petit peu les voies pour orienter ces personnes-là vers les spécialistes ou vers un suivi approprié. Certaines prises de rendez-vous un peu plus urgentes ont également pu être prises avec des spécialistes locaux. Voilà.
Vous avez sans doute connaissance par rapport à d'autres départements. Est-ce que le Gers est plus défavorisé sur le plan médical que d'autres départements ?
Alors oui, je ne vous apprendrai rien. On sait tous assez tristement que le Gers est un désert médical où la situation et l'accès à une offre de soins est assez critique. Hein. Je mentionnais tout à l'heure les disciplines et secteurs prégnants, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Hein. On n'a pas parlé de dermatologie, on n'a pas parlé de... Hein. Oui, certes, nous sommes dans une situation un peu complexe et c'est pour cette raison qu'on essaye d'organiser des événements de ce type-là. Mais je sais d'expérience que les autres départements mitoyens ne sont pas forcément mieux lotis, voilà, pour des raisons différentes.
On trouve aussi ce genre de forum dans les autres départements ou c'est unique ?
Cette initiative-là a été à l'origine créée par le département du 82 et donc nos équipes de Montauban, il y a 3 ans, ont monté ce type d'initiative-là et ont pu rassembler un nombre important de partenaires au fil des années. Et on essaye désormais de répliquer un petit peu ces initiatives à l'échelle des départements mitoyens et de faire un petit peu tache d'huile.
Donc une première édition, j'imagine qu'il y en aura une deuxième parce que les demandes sont importantes.
Les demandes restent importantes, l'ambition est là de reconduire cela, de faire également appel à un nombre plus important de partenaires et puis peut-être pour ne pas oublier de les mentionner, aucune de ces actions ne pourrait être mise en œuvre sans l'appui de nos bénévoles, de nos partenaires, mais également des municipalités qui ont appuyé chacun de nos centres pour le transport ou la mise à disposition de la maison de Gascogne où nous sommes actuellement.
Oui, parce qu'il faut le rappeler, toutes les associations ont toujours besoin de bénévoles.
Et on en manque cruellement, n'hésitez pas à nous contacter.
Nathalie, bonjour, vous êtes une patiente, vous êtes venue aujourd'hui pour un contrôle des yeux. Alors vous m'avez dit que vous êtes passée à l'étape de la lecture.
Oui, mais je me suis aperçue que j'ai déjà des lunettes progressives, mais je vois de la même façon que mes lunettes et sans lunettes. Il y a des troubles, mais donc on va voir le résultat. Ma vue n'a pas plus bougé trop non plus, mais bon, je pense que j'ai un besoin quand même. On va passer à l'étape après, on verra.
Vous êtes venu aujourd'hui ici parce que vous n'avez pas, comme beaucoup de gens, d'ophtalmo. C'est compliqué de prendre un rendez-vous.
Oui, et puis là, je suis dans une situation, mais voilà, qu'il me refait retrouver là. Bon, ben, espérons que ça évolue. Mais merci au Resto du Cœur, merci d'avoir organisé ça, parce que et c'est dommage que certains n'en profitent pas et qu'ils dénigrent cette mise en place.
Hélène, bonjour, vous êtes médecin cardiologue à la retraite. Voilà. Là, vous tenez le stand de cardiologie. Alors, vous m'expliquez que les personnes qui viennent vous voir ont des risques, en fait.
Oui, tout à fait, parce qu'il y a une bonne population de gens qui sont des fumeurs, qui sont en surpoids parce qu'ils ont une alimentation qui n'est pas bien adaptée. Et alors, ils ont soit peur d'aller consulter, soit pas les moyens, pas de médecin ou pas de bonne couverture sociale. Et donc, ils viennent demander des avis. Alors, on fait surtout ici à ce stand de la prévention, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens d'exploration. Mais on peut aiguiller rapidement, avoir un rendez-vous un peu plus rapproché. Surtout, on contrôle l'attention, on insiste bien sur le discours des facteurs de risque, sur les méfaits du tabac, sur comment avoir une meilleure alimentation, comment mieux équilibrer sa tension, l'activité physique. On essaie de faire passer le message en étant très à l'écoute de ce qu'ils expliquent, de leurs problèmes.
Quand on a un gros fumeur, comment expliquer qu'il faut restreindre ou peut-être pas supprimer, mais arriver à restreindre?
D'abord, on leur explique l'impact du tabac, parce que les gens, ils pensent souvent cœur ou cancer du poumon, mais il y a aussi la bronchite chronique, il y a aussi l'artérite avec le risque d'amputation, il y a aussi les cancers de vessie. Et quand on associe tout ça, quand même, quelquefois, ça parle plus aux gens. Voilà. Et puis, ça coûte. Ça a un coût aussi, le tabac. Donc, souvent, ces gens n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, je crois qu'il faut essayer de leur vraiment expliquer. Les plus difficiles à convaincre, c'est ceux qui fument depuis l'âge de 14 ans, 12 ans, et qui sont accrochés à leur cigarette comme à une béquille. Voilà.
Quand vous avez des personnes qui sont atteintes de, qui ont un poids supérieur à la normale, comment, en quelques minutes, vous pouvez leur conseiller des choses?
Bon, on insiste, on essaie de repérer les erreurs d'hygiène, c'est-à-dire l'absence d'activité et les erreurs d'alimentation. Et puis, parce qu'on a eu quelques sujets qui étaient en obésité franche, ils commencent à savoir tout ce qu'il y a des traitements actuellement qui vont être remboursés, qui étaient initialement destinés au diabète et qui sont maintenant adaptés au traitement de l'obésité et qui vont être pris en charge. Donc certains sont prêts à aller vers... Ils sont conscients de leur surpoids et de la gêne que ça leur occasionne et du risque, surtout de mortalité.
Et au niveau justement conditions physiques, exercice physique, qu'est-ce que vous leur conseillez? Des choses de base, pas trop compliquées?
Tout à fait, des choses de base et économiques, à savoir l'activité quotidienne 30 à 45 minutes par jour avec une marche simple à 4 km/h, 3 km/h. C'est pas la peine d'aller très vite, mais il faut que ça soit quotidien, régulier, pas rester vautré dans son canapé. Alors bien sûr, il y a quelquefois des problèmes, articulaires ou qui limitent un peu l'activité. Mais bon, le plus souvent, c'est possible.
Voilà, une immersion sur ces journées qui se sont déroulées à la maison de Gascogne à Auch, ce premier forum départemental de la santé et de la solidarité organisé par les Restaurants du Cœur. On a écouté Jean-Luc Gouault, responsable départemental d'aide à la personne au Resto du Cœur, ainsi que Nathalie, une patiente, et enfin Hélène, médecin cardiologue. Un grand merci à Pauline Cazier pour ce reportage, et c'est notre correspondante dans le Gers.
Mes amis, nous allons vivre et vivre fort intensément, à ne regarder que devant, vivre à plus de 100 000%, n'oubliant qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre sans condition, vivre vraiment, sans peut-être, sans oui, mais attends. À tout bouffer à pleines dents, à surtout ne jamais subir. Oui, mes amis, nous allons vivre les doigts en verre, la tête au vent, le regard fier, le feu au sang, le courage et le cœur battant, nous relevant malgré le pire. Oui, mes amis, nous allons vivre sans jamais perdre aucun moment, jamais laisser filer le temps, en se serrant, en s'embrassant, à oublier qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre. Vivre sans regret, sans tourment, pliant peut-être, mais résistant à toutes les tempêtes, les torrents, à toutes les critiques des sbires. Oh mes amis, nous allons vivre. Et vivre sans anesthésie, sans être abruti de calme. Vivre sans être de tous ces gens qui meurent bien avant de mourir. Oui mes amis, nous allons vivre. Vivre toujours en se disant qu'à part l'amour, rien n'est qu'urgent. Le reste est vain, inconsistant, car un jour nous allons mourir. Mais d'ici là, nous allons vivre. À tout donner, à tout venant, sans calculer, presque inconscient. Car rien ne vaut que ces instants où l'on oublie qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre.
Radio Présence dans la Cité Mariale, 96.
À 12h passées de 31 minutes, on fait un point sur l'actualité. On retrouve pour cela Sacha Baudet-Paupillé. Bonjour Sacha.
Bonjour à tous et à toutes. La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, sera demain en déplacement dans la métropole toulousaine. Au programme, une étape de la tournée citoyenne La Région à vos côtés sur le marché Cristal à Toulouse, puis une rencontre au CFA de Blagnac avec les responsables des centres de formation mais aussi les élèves. L'occasion pour la présidente de région de réaffirmer son soutien à l'apprentissage alors qu'elle dénonce la baisse annoncée des financements accordés aux régions pour ce secteur. Les échanges porteront notamment sur les difficultés financières des CFA, mais aussi sur l'avenir de certaines formations. Autre sujet régional, la région Occitanie accélère sa transition énergétique. Réunis en assemblée plénière, les élus ont adopté un nouveau plan baptisé Occitanie Résiliente Énergie. Plus de 570 millions d'euros seront investis dans les 5 prochaines années pour la rénovation énergétique des logements, le développement des énergies renouvelables, mais également la décarbonisation des transports. L'objectif affiché est de renforcer l'indépendance énergétique du territoire tout en réduisant la facture des ménages. À Toulouse, toujours, plus de 50 responsables associatifs, élus, chercheurs et professionnels de santé vont se réunir le 18 juin prochain à l'hôtel Dieu Saint-Jacques pour la première rencontre pour l'action consacrée à la précarité et aux aléas climatiques. Au cœur des débats, un nouvel indicateur baptisé ICAP, destiné à identifier les territoires les plus vulnérables face à la pauvreté, le vieillissement de la population et les épisodes de forte chaleur. Une problématique particulièrement importante en Occitanie, qui est l'une des régions françaises les plus exposées au changement climatique. Dans le Lot, l'avenir du cinéma de Souillac continue d'alimenter les discussions. Dans un communiqué, l'exploitant Cinéode réfute les rumeurs attribuant les difficultés du cinéma à la nouvelle municipalité. La société affirme au contraire que les problèmes remontent à plusieurs années et assure avoir maintenu ses investissements malgré un contexte difficile. Elle souligne également que de nouveaux échanges ont été engagés avec l'équipe municipale récemment élue afin de tenter de construire un projet durable autour de cet équipement culturel. Un mot de société, la tournée citoyenne La Région à vos côtés débute officiellement son parcours dans toute l'Occitanie. Lancée au printemps, elle vise à permettre aux habitants d'échanger directement avec les élus régionaux sur les questions de mobilité, de santé, de pouvoir d'achat ou encore de transition écologique. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site de la région pour savoir si elle passe dans votre ville. Et puis enfin, pour finir, un événement majeur pour l'Église catholique en France. Les évêques de France se préparent à accueillir le pape Léon XIV du 25 au 28 septembre prochain. Le souverain pontifié répond à l'invitation des autorités françaises, des responsables de l'Église catholique, mais aussi de l'UNESCO. Son voyage le conduira notamment à Paris, Lourdes ou encore Metz. La conférence des évêques de France Provence évoque une grande joie, mais aussi une grande responsabilité. Elle a déjà mis en place un comité de pilotage pour préparer cette visite exceptionnelle.
Merci beaucoup Sacha Baudet, Pouplier de l'Institut supérieur du journalisme de Toulouse. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera tout à l'heure à 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. On va parler d'un très beau salon, le Salon du Livre Pyrénéen, avec Philippe Zoni et Diego Rabal.
Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arabal, Philippe Subercase.
Un jour, un livre, un auteur. Bonjour Diego Arabal.
Bonjour Philippe, comment allez-vous ?
Très très bien. Aujourd'hui, Diego Arabal, nous allons parler d'un événement littéraire pour lequel Radio Présence est partenaire depuis déjà plus de 10 ans, à savoir la 17e édition du Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères-de-Bigorre, qui se tiendra les samedis 3 et dimanche 4 octobre au Carépi. Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous recevons Renaud de Belfond. Bonjour Renaud.
Bonjour.
Bonjour Renaud.
Nous recevons Didier Rousse. Bonjour Didier.
Bonjour.
Bonjour
et
Didier.
Nous recevons, pour la première fois, elle n'était pas venue les années précédentes, Sophie Bourreau. Bonjour Sophie.
Et bonjour.
Bonjour Sophie.
Tous les trois, donc, vous travaillez avec l'association Binaros, hein, qui est le porteur donc de la 17e édition du Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères-de-Bigorre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, pour refaire l'historique de ce salon, pour quelles raisons Silvio Brianti et Stéphane Lévesque, qui étaient ses créateurs, ont lancé ce Salon du Livre en 2010, soit il y a 16 ans?
Ça va être la 17e édition cette
17
année.
17 ans même, 17 ans, la 17e édition. Voilà.
Donc Silvio Brianti, Stéphane Lévesque, et il ne faut pas oublier Marc Besson de la librairie Auprès de Pyrénées à Bagnères, qui fait partie des trois, font partie du trio qui a lancé le Salon du Livre Pyrénéen, avec l'idée effectivement de présenter les livres qui s'éditaient sur les Pyrénées. Voilà, ça faisait suite à un salon qui avait existé à Font-Romeu et qui avait disparu. Je pense que c'est ça qui leur avait donné l'idée. Et donc l'idée, c'était de reprendre cette idée et de développer le Salon du Livre Pyrénéen. Pour après, c'était des amoureux de littérature pyrénéenne. Enfin, pour Silvio et Stéphane Lévesque, bon, c'était des gens qui étaient impliqués dans de la recherche sur les Pyrénées aussi. Et quant à Marc Besson, ben c'est un libraire spécialisé en livres de montagne, livres nature, livres Pyrénées à Bagnères-de-Bigorre. Donc effectivement, ça marchait bien. Et voilà, ils ont lancé ça et depuis, ça a bien évolué.
Donc la 17e édition du Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères-de-Bigorre. Alors on a bien compris que dans les origines, au départ, c'était Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales. Aujourd'hui, Bagnères-de-Bigorre. Ça se situe où ici? Parce qu'on dit Bagnères-de-Bigorre, mais c'est pas tout à fait entre Bagnères-de-Bigorre et une autre petite commune pyrénéenne.
Alors c'est le Salon du Livre Pyrénéen. Il se situe au Carépi, qui est situé à Gerdes, sur la commune de Gerdes. Sur la route de la Mongie, donc sur la route d'école maintenant, là où tous les vélos montent pour cet été pour aller au Tourmalet. Voilà, c'est juste à la sortie de Bagnères à gauche, donc voilà, c'est toujours bien indiqué.
Alors, 17e édition donc du Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères-de-Bigorre, hein, pour celles et ceux qui nous rejoignent, hein, nous avons Renaud de Bellefond, Sophie Bourreau et Didier Rousse. Quel est le programme de ce 17e, de cette 17e édition du Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères-de-Bigorre? C'est vous qui en parlez, Didier Rousse.
Bon, je veux bien en parler. Donc, depuis 3-4 ans, nous avons un thème spécifique pour chaque salon. Et cette année, c'est la cartographie. Puisque, bien évidemment, s'il y a des Pyrénées, il y a de la cartographie. La cartographie, alors on n'est pas remonté aux origines de la cartographie, puisque, ça je vais en parler, c'est un peu mon dada, il existe une carte de l'Empire romain qui s'appelle l'itinéraire d'Antonin, où figure Bagnères-de-Bigorre. Donc je vous passe les détails, c'est pas le... C'est
pas elle date de quand, cette carte?
Du 3e siècle, hein.
Après
Jésus-Christ, oui, tout à fait. Donc c'est des itinéraires spécifiquement faits pour l'armée. Hein. C'est pas, faut pas rêver. Donc c'est et Les bannières est sans doute sur cette carte, avec son nom antique qui est Aquae Conwenae, c'est-à-dire les eaux des convennes, puisque c'est Bertrand de Comège. Voilà. Donc, on n'est pas remonté si loin. On a un premier thème, donc l'histoire de la cartographie, bien sûr, les origines cartographiques de la haute montagne, avec Bertrand Gibert, qui est le co-auteur de Relever la montagne. Nous aurons Philippe Abadi, qui est délégué Occitanie de l'IGN, forcément l'Institut Géographique National, qui est incontournable, qui nous parlera de l'histoire de la cartographie. La cartographie, puisque déjà sur l'Empire romain, ça servait à l'armée, donc l'origine des cartes, c'est les cartes d'état-major. Tout le monde a plus ou moins des souvenirs. Si les gens qui ont été scouts se souviennent des cartes, les cartes d'état-major, on appelait ça pour se.
Et puis à l'armée aussi, oui.
Pour l'orientation. Oui. Les gens ne le savent plus, puisqu'il n'y a plus de service militaire.
Oui, mais pour les anciens, comme
nous. Pour les vieux, c'est ça. Et donc, qui nous fera l'histoire de la cartographie, Philippe Abadi de l'IGN. Et donc, Renaud de Bellefort aussi, qui participera à cette rencontre, qui a écrit, qui est l'auteur de l'histoire des guides de montagne. Forcément, qui dit guide de montagne dit aussi carte. Hein. Deuxième thème. Ça, ce sont les rencontres. Cartographier, c'est raconter, forcément, puisque les cartes racontent aussi l'histoire. Sylvain Guyot qui nous parlera d'une autre cartographie, qui c'est une cartographie plus sensible, qui permet l'expression des ressentis et des vécus. Aurélia Guy participera aussi, qui est une artiste plasticienne, qui nous a fait l'affiche de.
Je vais la montrer.
L'affiche du salon.
On est filmé, voilà, la 17e. La 17e affiche, voilà, c'est ici, vous êtes là. 17e édition donc, du Salon du Livre Pyrénéen de Bannière de Bigorre. On précise que chaque année, vous avez de très belles affiches qui est faites, réalisées par une personne différente chaque année.
Et qui est faite spécifiquement pour le salon. Depuis 2014 ou 2015, je ne me souviens plus.
Voilà, 2014, donc ça fait à peu près donc, 12 ans effectivement que. Que c'est fait.
Aurélia Guy, qui est donc artiste, mais qui est aussi bergère, qui nous parlera des ouailles, les boutons.
Les brebis.
Voilà, les brebis, c'est
voilà,
ça.
Comme on, dit, voilà, on précise, parce que je ne suis pas persuadé que tout le monde sache que les ouailles, c'est les brebis.
Voilà.
Hein, pour des gens qui ne sont pas du coin, ils vont se demander ce que c'est. Ils vont penser aux gays, non, c'est pas des gays.
Non, c'est pas ça.
Les ouailles, ce sont bien, effectivement, voilà. Les brebis.
Donc les parcours. De l'agropastoralisme, Léonore Manuel de l'association Beaubruit, qui est de Prades, dans les Pyrénées orientales, voilà. Puisque les Pyrénées, ça va du Pays Basque. Hein,
exactement, en Bayonne,
voilà, de bout à l'autre. Voilà, donc, nous avons toujours des intervenants de toute la chaîne. Et donc, il nous fera un retour d'expérience pour un atelier de cartographie sensible à nouveau, pour saisir la contrée qu'on habite.
Dans tout ce que vous nous dites là, oui. Didier Rousse, bon, je suis auditeur, je suis auditrice. Il y a un site sur lequel on peut retrouver ce programme, effectivement, que vous nous dites là pour pouvoir le consulter. En amont du salon qui aura lieu, on le rappelle, hein, les samedis 2 et dimanche 3 octobre, donc au Carépi, hein, route d'école à Bannière-du-Bigorre, pour que les gens puissent se
samedi
dire.
Samedi 3 et dimanche 4.
Voilà, oui. Samedi 3 et dimanche 4. Hein, donc j'ai dit une bêtise, on refait, prise 2. Samedi 3. Je vois, il y en a une qui écoute. Hein, il y en a une qui écoute uniquement hein, dans ce studio. Donc samedi 3 et dimanche 4 octobre.
Donc vous parlez du site.
Hein. Ouais, du site pour que les
Du site
de Binaros.
Parce que site pas physique, le site internet.
Du site internet.
Pour les vieux comme moi, il faut préciser.
C'est vrai, vous avez raison. Du site internet, je le précise.
Donc c'est tout attaché salon du livre tiré pyrénéen.
Le tiré du 6.
Oui,
tiré du 6, pyrénéen. Okay.
.fr.
.fr. Et là, salon du livre tout attaché, tiré du 6.
Pyrénéen.fr. Et là, vous avez le site où vous pouvez consulter le programme.
Donc, on retrouve tout le programme pour les auditeurs et les auditrices qui souhaiteraient effectivement, à la carte, hein, venir à telle ou telle rencontre. On va parler avec vous, Sophie Bourreau. Vous êtes la programmatrice, au niveau du pôle jeunesse. J'espère que je n'ai pas écorché.
Non, vous n'avez pas écorché.
Bon, ça va, c'est bien. Donc, j'aurais au moins réussi un truc dans cette émission. Vous allez nous dire un peu la raison de votre présence ici aujourd'hui et quel est votre rôle au niveau de ce Salon du Livre.
Ouais. Alors déjà, je ne suis pas toute seule sur le pôle jeunesse. Je suis avec Claudine Chanéac. On est à deux pour justement réaliser cette programmation jeunesse que l'on réalise depuis pour la 4e édition, là, cette fois. Et en tout cas, pour moi, c'est vraiment... Je travaille dans le milieu du livre et de la lecture, par ailleurs. Et c'est un côté militant, en fait, que je défends grâce à Binaros.
Quand vous dites que vous travaillez dans le milieu du livre, vous travaillez dans quoi ?
Je travaille à mon compte. Moi, je fais des interventions indépendantes.
D'accord.
Voilà. Et, mais en tout cas, à Binaros, je suis bénévole avec Claudine. Et c'est vrai qu'on a à cœur d'ouvrir le salon pour le milieu de la jeunesse. Et du coup, de faire arriver aussi un nouveau public plus familial, on va dire. Et donc, pour cela, on essaye de programmer des choses un peu plus ludiques pour les enfants. Et on essaye surtout de toucher vraiment toutes les tranches d'âge. Voilà. Donc, si bien que dans la programmation, et moi, ça me tient vraiment à cœur, on a des temps de lecture pour les bébés, les 0-3 ans.
Ah, d'accord.
Voilà. En partenariat avec la médiathèque de Bagnères et aussi avec une association du département Lire et Faire Lire. Des bénévoles aussi et qui du coup viennent lire pour les bébés. Et en termes d'ateliers un peu plus spécifiques, on essaye vraiment de toucher à partir de 3 ans. Et donc là, cette année, on est vraiment très content parce qu'on a réussi à créer un partenariat avec le CPIE de Bagnères qui va venir sur
le comité permanent d'initiation, le centre permanent d'initiative pour l'environnement.
Voilà, exactement. Et donc là, ils vont venir sur la journée du samedi pour animer la mallette, l'atelier Lézard, une mallette pédagogique qui a été créée avec l'association NEO, donc Nature en Occitanie. Et pour laquelle il va y avoir des maquettes en relief, des jeux interactifs, etc. Donc il va y avoir 3 ateliers sur la journée du samedi.
Donc on peut retrouver aussi sur le programme que nous a décrit tout à l'heure Didier Rousse.
Okay. Ouais. Et donc voilà. Et sur la journée du dimanche, on a rencontré une femme, Marion, qui est en études au CREPS pour passer son AMM, accompagnateur moyenne montagne.
Ah d'accord. Ok. Voilà. J'allais vous poser la question
entre
de l'acronyme.
Autres, et son BPJEPS aussi, me semble-t-il, sport nature. Voilà. Si je dis pas de bêtises, Marion. Et en tout cas, elle va venir pour animer des ateliers boussole. Voilà. Et donc,
boussole, c'est quoi? C'est pour éviter d'avoir à faire une émission perdue de vue avec des gens que vous auriez égarés en montagne.
Boussole, c'est pour un peu désacraliser cet objet qui peut sembler très très compliqué et surtout le mettre entre les mains de tout un chacun pour l'utiliser au moins une fois dans sa vie, à défaut de l'utiliser en montagne quand on part en randonnée balisée. Voilà, et surtout pour s'amuser avec, voilà. Donc Marion, elle va installer des balises au sein du salon, au sein de cette grande salle de Carépi, et définir tout un parcours pour retrouver des balises, voilà.
C'est intéressant ça comme...
Ah oui, c'est moi la première, j'ai envie d'y jouer.
Donc ça veut dire que c'est autant pour les enfants que pour les adultes.
Et bien en fait, pour la première fois aussi cette année, on va mettre en place des ateliers pour les adultes. Et notamment, j'ai demandé à Marion pour qu'elle puisse animer un atelier boussole pour les adultes et elle a dit oui de suite, effectivement. Voilà, et en dehors de ça, avec Claudine, on est en train de mettre en place aussi un petit atelier pour courbe de niveau, pour un peu aussi, on va dire, faire un premier pas vers la lecture de cartes hygiène et un peu voir comment ça fonctionne tout ça. Je pense qu'il y a aussi des adultes qui pourront s'intéresser à la question. donc on va faire quelque chose de très simple, hein. On n'a aucune prétention et aucune compétence très forte au niveau technique, hein, technicité du dessin hygiène, etc. Mais en tout cas, c'est une première approche pour un peu désacraliser tout ça aussi, parce que souvent avec une carte dans les mains, c'est un peu la panique pour beaucoup. Donc voilà, c'est une façon faire découvrir la carte hygiène de façon plus tranquille et ludique.
Oui, c'est intéressant ce que vous nous dites quand vous nous parlez de boussole et de carte, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des jeunes vont se servir de la carte et de la boussole avec le téléphone portable. Et donc ça veut dire que là, on revient un peu en arrière, c'est pas la génération Gutenberg, hein, mais ça y ressemblerait un peu. où on revient sur la génération papier.
Ben, en fait, moi, au travers du livre et de la lecture, je défends le papier. Et je pense que chaque outil papier a son utilité. On a beau avoir les outils numériques qui ont leur utilité, hein, mais on ne remplacera jamais complètement le papier. Et d'ailleurs, moi, pour avoir rencontré des gens en montagne qui utilisaient le GPS, je peux vous dire qu'ils se sont bien perdus avec le GPS téléphone. Donc, oui, la lecture de cartes, elle a son intérêt. Et c'est aussi l'objet de ces ateliers pour le salon. Et d'ailleurs, aussi, je voudrais dire qu'avec Claudine, on organise chaque année un grand jeu au sein du salon. Et cette année, cartographie, boussole, etc., forcément, on ne pouvait pas passer à côté de la chasse au trésor.
Bon, dites-nous, vous savez, on fera un direct hein, avec Philippe Subercase et Diego Arrabal. Au salon, j'espère que vous n'imposerez pas à Philippe Subercase donc, une carte pour savoir où il doit implanter donc, le studio de Radio Présence de 11h à 12h30, hein, je le rappelle, le samedi 3 décembre. Samedi 3 septembre.
Je vais y arriver.
Samedi 3 octobre. Non, mais j'en fais une hein, par émission. Je vois qu'en régie. J'en suis à la seconde. Bon, c'est ça. Mais c'est la vie, Yuri, ça. Vous verrez Diego Arrabal quand vous aurez
la deuxième, peut-être. La deuxième, plutôt qu'en seconde.
Parler du Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères-de-Bigorre, c'est aussi parler des quatre prix littéraires.
Oui. Vous remettez. Alors, en même temps que la création du Salon du Livre, il y a eu la création des prix du Livre Pyrénéen. Bon, il y a eu des évolutions depuis. Donc, il y a aujourd'hui quatre prix du Livre Pyrénéen. Un prix connaissance, donc, qui est plutôt tourné vers les livres, on va dire, savants, pour simplifier la chose. Un prix littéraire qui est tout sur la fiction, les essais, enfin, ce qui est vraiment littéraire. Un prix guide qui est sur tous les livres pratiques, mais qui peuvent être, c'est pas que le topo guide, ça pourrait être un livre de cuisine, on n'a jamais primé encore un livre de cuisine. Mais voilà, c'est donc un exemple que je prends régulièrement, je suis tranquille.
Donc c'est un appel aussi, ça.
Et un quatrième prix qui s'appelle le prix Binaros. Mais quand je vous ai donné ces trois premiers prix, vous voyez bien qu'il y a plein de livres qui échappent, qui pourront jamais avoir de prix. Donc c'est la manière de pouvoir primer un livre photo, un livre un peu atypique ou des choses comme ça, ou le livre jeunesse. Il faut savoir qu'au début, il y avait un prix jeunesse, mais la production de jeunesse sur les Pyrénées est tellement faible. Et
toujours aujourd'hui, parce que vous avez arrêté ce prix, aujourd'hui.
Oui, ça reste quand même... Déjà, on a des problèmes avec le livre pratique. Aujourd'hui, c'est un peu limite en production. Mais alors, le livre jeunesse, c'est dur de trouver vraiment du livre, d'en avoir assez pour faire un prix, quoi. Voilà. Et puis en plus, on comptait que... Donc ça, du coup, on a primé des livres jeunesse comme ça. On a aussi primé un livre jeunesse dans la catégorie guide, puisque c'est un guide pour la jeunesse il y a quelques années. Mmh. Voilà. Et donc, il y a un jury de 9 personnes qui se réunit depuis le mois de janvier, voire même décembre, mais essentiellement janvier, et qui a reçu... On a cette année... C'est une petite année en termes de publication sur les livres pyrénéens, puisqu'on a, on doit avoir une cinquantaine de livres, alors que d'habitude, on en a 70, à peu près.
Comment vous expliquez le fait que...
Je n'explique pas, je constate.
Vous constatez, d'accord. Mais est-ce qu'il y a toujours la qualité qui est au rendez-vous?
Je pense qu'il y a de la qualité. Oui, non, la qualité, elle y est cette année, ça c'est sûr. Enfin, moi, tel que j'en entends parler par les membres du jury ou comme ça, et ce que je vois, la qualité, elle y est.
Alors, lorsqu'on sera présent, hein, je ne vais pas me tromper cette fois-ci, donc les samedis 3 et dimanche 4 octobre, 2026, donc au Salon du Livre, et que nous serons présents donc avec Philippe Subercase et Diego Arrabal le samedi de 11h à 12h30. On sera là notamment pour interviewer chaque année, c'est un des moments forts hein, du direct, les quatre lauréats ou lauréates, parce qu'il y a aussi des femmes chaque année, effectivement, qui y sont. Comment ça se passe, la sélection de ces prix littéraires? Vous avez un jury, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le déroulement et le fonctionnement?
Il y a un jury de 9 personnes alors, qui sont choisies d'abord par la proximité, parce que pour faire circuler les livres, vous savez très bien que le tarif postal pour envoyer des livres à distance et tout ça, c'est hors jeu, on n'a pas les moyens. donc c'est des gens qui sont à proximité de Bagnères avec des compétences très diverses. Il y a des gens qui ont une forte compétence sur les Pyrénées, d'autres dans le milieu du livre. On a le libraire d'Arro qui fait partie du jury par exemple, donc là vraiment dans le milieu du livre, et d'autres qui sont des lecteurs de livres quoi, enfin, qui n'ont pas de compétences particulières sur les Pyrénées, si ce n'est qu'ils aiment lire des livres. Voilà. Et ils se réunissent en gros une fois tous les mois et demi, 2 mois. Et puis, ils sélectionnent les livres au fur et à mesure. Binaros n'intervient pas. Enfin, il n'y a pas de règles. C'est eux qui choisissent. C'est le jury. Il est réellement souverain et strictement indépendant de la structure. Et on nous donne les prix. On connaît les prix fin août, début septembre. Donc, ils se réunissent jusque-là. En gros, là, en juin, juillet, il va y avoir une réunion où ils vont avoir sélectionné les derniers livres qui vont rester à peu près en lice pour que tout le monde ait vraiment le temps de lire les livres les plus qui ont marqué le jury, voilà. Et qu'ils puissent se décider bien à la dernière réunion qui est fin août.
Bon, on rappelle aujourd'hui que nos invités, donc 17e édition du Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères de Bigorre, donc qui se tiendra les samedis 3 et dimanche 4 octobre à Gers de Bagnères de Bigorre, hein, route d'école. Hein, donc quand vous prenez la route d'école à la sortie de Bagnères de Bigorre, à gauche, vous traversez le petit pont qu'il y a sur la Doure.
À la nage, oui.
Plutôt
qu'à la nage, traverser.
Plutôt qu'à la nage, voilà. Bon, normalement, ça doit pouvoir se franchir, sauf si on a effectivement un événement climatique rien avant. Mais bon, c'est vrai qu'on est, à l'abri de rien. On en parle donc aujourd'hui, on le rappelle, avec Sophie Bourreau, qui s'occupe de tout ce qui est programmation pour le jeunesse, mais qui n'est pas la seule, avec sa collègue qui s'appelle
Claudine Chanéac.
Voilà, Claudine Chanéac. Donc avec nous en studio également, Didier Rousse, qui est administrateur, et Renaud de Bellefond. Une dernière question avant que on termine cette émission. La personne qui a fait l'affiche, hein, on la remontre, hein, du Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères de Bigorre, chaque année on montre cette affiche, on reçoit d'ailleurs à chaque fois au mois d'octobre, hein, quand on fait cette émission littéraire en direct pendant 2 à 3 minutes le créateur ou la créatrice. Depuis qu'on est avec vous, ça fait 11 années. Comment vous sélectionnez chaque année le ou la personne? Ça se passe comment? C'est un appel à la candidature? C'est des rencontres? Sont des rencontres?
Non, on n'a pas la capacité à faire un appel à la candidature. C'est plutôt nos connaissances par rapport au thème. On en discute un peu entre nous. Et ce sont nos connaissances sur des artistes plutôt en début de carrière. On essaye de promouvoir des gens qui ne sont pas trop connus aussi. C'est le cas d'Aurélia Guy, qui est, bien qu'elle c'est une artiste plasticienne.
Qui a quel âge?
Ouais, j'en sais rien, quarantaine d'années.
Bon, vous avez droit de joker, vous savez, donc vous avez utilisé le premier, ouais, là.
Mais surtout, qui a pas travaillé dans le milieu artistique jusqu'à maintenant.
D'accord.
Et puisqu'elle était la coordinatrice des bergers d'appui de la pastorale pyrénéenne pendant plusieurs années, notamment avant, et qui là se remet vraiment à travailler sur sa passion, quoi. Et en travaillant autour, effectivement, des parcours des troupeaux, des choses comme ça qu'elle a bien connues en travaillant. Donc, effectivement, le fait qu'elle reparte sur un projet comme ça, et par rapport au sujet qu'on avait et tout ça, c'était quand même. Et la proximité, parce qu'il y a ça aussi, c'est bien d'avoir une artiste. On avait pensé à d'autres artistes, notamment une qui était sur Barcelone ou comme ça, mais c'est compliqué pour pouvoir s'échanger. Ouais. Voilà. Donc, on essaye aussi dans la proximité, là. Voilà. Donc, effectivement, elle est sur Aspect. C'est pas très loin et voilà.
Allez, on remontre cette affiche, hein, avant de terminer donc cette émission. 17e édition du Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères de Bigorre. Vous voyez les dates comme moi donc sur l'affiche, les samedis 3 et dimanche 4 octobre. Je précise que Présence donc est partenaire de ce salon. Nous sommes partenaires de ce salon et ce sera la 11e édition.
Non, 17e.
Pour nous, la 11e édition pour laquelle nous serons. C'est 17e édition, mais la 11e édition pour nous à laquelle nous participerons. En tant que radio, voilà, partenaire, où nous ferons l'émission en direct. On a fêté le 17e anniversaire l'année dernière. Voilà, mes 17e édition pour le salon lui-même. Merci à tous les trois, Sophie Bourreau, donc Didier Rousse et Renaud de Bellefond, de nous avoir accompagnés. On se reverra, on refera une émission avec vous, on le précise, début septembre. Hein, pour refaire donc une petite piqûre de rappel, voilà, pour les auditeurs et les auditrices. Et on se retrouvera ensuite, le samedi 3 octobre à 11h. Pensez bien à marquer l'itinéraire, hein,
sur la carte.
Sophie, voilà, on compte sur vous. Déterminer le territoire et la cartographie exacte pour le studio que sera amené à à monter donc Philippe Subercase qui nous accompagne et on le remercie puisque on le voit pas hein, ici on ne le voit pas, mais s'il y a pas de personne en régie, il y a personne pour faire de la radio. Faut jamais les oublier. C'est pour ça qu'on le remercie parce que les gens dans l'invisible permettent de faire fonctionner ceux qui sont dans la partie visible. Merci à vous. Diego Arabal, un dernier mot, vous voulez dire ?
Oui, non, je disais visible ou audible.
Visible ou audible, tout à fait. On se dit à la semaine prochaine, nous, Diego Arabal ?
Si c'est possible, oui.
Eh bien, écoutez, ça va être possible et toujours, effectivement, avec Philippe Subercase qui sera en régie. Voilà, on vous dit à la semaine prochaine. Merci de nous avoir accompagnés.
Radio Présence sur le COS 106.5.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Le pape dans les environs de Barcelone ce mercredi matin. Son premier rendez-vous l'a mené dans un centre pénitentiaire.